les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
Alors, bienvenue dans les portes de la connaissance. Alors, après une longue absence, parce que j'ai été absent malheureusement pour des raisons professionnelles, on était absent de la porte de la connaissance pendant trois bonnes semaines. Les auditeurs ont dû dire, tiens, les portes de la connaissance, ça n'existe plus. Mais ici, on est de retour. On est avec vous justement et on va faire une émission aujourd'hui sur l'ufologie, sur les ovnis encore. Alors vous allez dire encore les ovnis, oui, mais il y a tellement de choses à dire sur le domaine ufologique. On revient avec quelqu'un qui était président des repas ufologiques de France à l'époque, qui s'appelle Christian Contès, qui va nous parler du phénomène ovni à travers la France et à travers le monde, et un petit peu aussi de son activité à l'époque dans les repas ufologiques. Voilà, donc on accueille aujourd'hui Christian. Alors pour les prochaines émissions, on va avoir une émission, on va reprendre les émissions ensemble une fois par semaine comme d'habitude. Vous aurez votre émission toutes les semaines avec un invité différent. On aura des scientifiques, comme d'habitude, sur les étoiles, vous allez avoir des ufologues, vous allez avoir cette année énormément de sujets. On va traverser un peu tous les domaines scientifiques et je pense qu'on va avoir de belles émissions. Voilà. Alors, Christian, bonjour.
Bonjour Patrice, comment vas-tu?
Très bien, très très bien Christian.
Je salue tes auditeurs.
Merci. Alors... Donc, qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Alors, d'abord, présente-toi, dis-nous qui tu es exactement, parce que Christian Contès est très bien connu du domaine ufologique par les repas et par certains Français, mais le reste des auditeurs ne connaissent pas Christian Contès. Qui es-tu exactement et quelle était ton activité au sein des repas UFO?
Moi, j'ai commencé l'ufologie dans les années, au tout début des années 70. Et j'en suis arrivé en 2009 à prendre la direction des repas ufologiques qui avait été créé. Enfin, le concept avait été créé par Thierry Rocher et puis par Jean-Luc Rivera, et qui a été repris ensuite par Gérard Lebas, qui en a fait les premiers repas ufologiques, qui étaient essentiellement sur Paris et très ponctuellement une fois par mois ou une fois tous les deux mois qu'il avait créé le concept. En 2009, il y avait une dizaine ou une quinzaine de repas dans toute la France. Et suite à un litige, les repas ufologiques, le concept de Gérard Lebas était voué à l'extinction. Et j'ai repris donc ce concept et j'en ai fait une association en 2010, avec l'accord d'ailleurs de Gérard Lebas et même son aide. Et j'en suis devenu le président jusqu'en 2016. Voilà. Donc... Quand j'ai quitté mes fonctions de président des repas ufologiques en 2016, il y avait un peu plus de 40 villes dans le monde entier qui réalisaient plus ou moins régulièrement des repas sous le concept des repas ufologiques tel qu'on le connaissait en France. Voilà.
D'accord. Et le concept des repas ufologiques est né comment ?
Ah ben c'est juste des gens qui au départ voulaient se rencontrer autour d'une table pour discuter du phénomène OVNI sans être affublés de remarques désobligeantes et ils étaient en même temps soumis à des oreilles qui étaient attentives, qui les entendaient, hein, pas qui ne faisaient pas que les écouter. Et le concept est né comme ça, quoi. C'était des gens qui voulaient se réunir entre amis, entre ufologues, peut-être même pas entre ufologues, mais au moins il y avait dans le concept des gens qui venaient en tant que témoins et qui pouvaient raconter leur histoire sans être pris pour des doux rêveurs, quoi. C'est ça le concept de base, hein, et c'est tout, ça a toujours été et ça a été inchangé jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce qu'avant les repas ufologiques qui sont nés en quelle année exactement?
Oh, ça date du tout début des années 60, 73, 74, je crois que c'est dans ces années-là. Mais à cette époque-là, moi j'étais militaire, je ne connaissais pas les repas ufologiques, et j'ai commencé à connaître les repas ufologiques, l'ufologie française en général et le concept des repas ufologiques à partir de 1995-96.
D'accord. Donc, avant, il y avait autre chose ou c'est vraiment le début, je dirais.
Ah, c'est le début du concept, en tout cas, des repas ufologiques. Bon, il y a eu des réunions, des conférences, des trucs comme ça qui ont été organisés. Mais le concept des repas ufologiques, qui se répétait très régulièrement, au départ une fois par mois, grosso modo, et ensuite, on a quand même un petit peu élargi parce qu'il y avait des secteurs, qui ne supportaient pas la durée entre deux repas. Il fallait que ça soit un peu plus long, donc c'était entre deux repas, tous les 2 mois, pardon, et c'était même des fois tous les 3 mois. Il y a même des gens qui ne faisaient des repas qu'une fois ou 2 fois par an, quoi, parce que ils travaillaient sous notre concept, ils se servaient de notre notoriété et de notre diffusion nationale et même internationale pour pouvoir faire venir des invités un peu prestigieux, et ça a payé, quoi, ça a marché.
D'accord. Alors, le concept des repas est toujours le même. Ça a changé depuis ton départ ou est-ce que c'est toujours exactement pareil? Je sais que ça a un peu baissé. Enfin, je dirais la fréquentation a un peu baissé parce que on a eu la période du Covid, évidemment, qui n'a pas favorisé les choses au niveau de la restauration et des rencontres. Est-ce que ça a un peu baissé ou est-ce que c'est toujours
Oh non,
aussi
ça a énormément baissé. On a pris une grosse claque, ça faut le reconnaître, parce que nous étions nos repas ufologiques ne se passaient pas dans nos maisons privées, hein, c'était dans les restaurants. Et puis avec le Covid, les gens ont laissé tomber, ils sont passés à autre chose. Là, on n'est que, je ne sais pas, on doit être 7 ou 8 repas qui doivent fonctionner en France, plus ou moins difficilement. Et aujourd'hui, les restaurateurs nous demandent alors qu'ils nous offraient des salles au départ, hein, puisque nous on allait manger chez eux, donc ils nous prêtaient la salle. Mais aujourd'hui, ils veulent qu'on la paye, la salle. Alors ça, c'est plus possible, quoi. Ou alors, il faut faire payer une participation à tous les gens qui viennent à nos repas, et c'est pas concevable. Mais le concept pour le moment reste encore le même. Il va falloir certainement le revoir, mais ça reste le même que ce qui était au départ, depuis Thierry Rocher, en passant par Gérard Lebas et par ma présidence. Ça reste le même concept. On n'a pas changé de ce côté-là. La seule chose qui a changé entre le concept d'avant l'association et le concept d'après l'association, c'est que nous sommes déclarés, c'est que nous avons une responsabilité, nous sommes donc déclarés ici au tribunal de Saverne, parce qu'en Alsace-Moselle, c'est les tribunaux qui s'occupent de ça et pas les préfectures. Donc voilà, c'est la seule chose qui a changé en fin de compte.
D'accord. Et l'intérêt a toujours été le même. Je crois que c'est un public de plus de curieux, de passionnés, de connaisseurs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme public
Ah ben on a
auprès?
beaucoup dans notre public, on a beaucoup d'habitués, hein, qui viennent dans 70-80% des cas. Et puis on a des curieux qui viennent juste pour voir un peu ce qu'on fait, de quoi on parle, etc. Ils comprennent ou ils comprennent pas, j'en sais rien. Et puis on a beaucoup, je dis pas, mais quelques témoins qui viennent nous parler. Bien souvent, la première fois qu'ils viennent, ils nous parlent à titre privé, et ensuite comme ils voient qu'ils sont entendus et qu'on ne se moque pas d'eux, ils se libèrent un petit peu et puis racontent leur histoire. D'ailleurs, ils en ont besoin de raconter cette histoire, parce que c'est souvent troublant et dérangeant pour eux, et voire perturbant dans leur vie. Je n'ai encore eu un exemple ce matin où j'ai reçu un témoignage qui était assez émouvant d'une personne qui n'est pas qui est enseignant et qui s'est fait humilier dans son travail par des gens parce qu'il a voulu leur raconter son histoire, quoi. Et chez nous, ça se passe pas. Donc, on n'a pas de personne. D'ailleurs, le premier qui ose se moquer d'un témoin, ben, il fait pas, il reste pas dans les repas ufologiques, hein. Il est renvoyé de chez lui. Puis là, il va voir les comiques pour rigoler, quoi. Il n'a pas besoin de venir voir nos témoins. Voilà, voilà à peu près ce que nous avons. Et puis on a aussi des gens qui essayent de se servir de la notoriété des repas ufologiques pour se faire une petite publicité. Hein, je ne veux pas donner de nom, mais bon, tout le monde saura de qui je parle, quoi.
Ça a été un repas durant ces années d'ouverture, je dirais, de gloire, parce qu'il y a eu la gloire des repas où il y avait énormément de repas. C'était très médiatisé, ça a été médiatisé beaucoup, ou est-ce que ça restait un cercle fermé?
Non, non, c'était médiatisé, ben déjà avec Facebook et notre site internet, etc. Nous étions quand même très connus. Il faut quand même reconnaître une chose, hein, au niveau des repas ufologiques, et ça, il n'y a pas beaucoup de d'ufologues ou de personnes qui s'intéressent à l'ufologie qui vont me contredire. La plupart, la grande majorité des ufologues qui ont aujourd'hui un petit peu de reconnaissance du public, et je vais parler de la radio ici et maintenant, de la radio Bob vous dit toute la vérité, etc., que nous avons aidé quand ils ont démarré. Mais les gens qui passent dans ces radios-là, qui sont maintenant des chroniqueurs, ou qui racontent leur histoire, sont tous passés par les repas ufologiques. Tous. Que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Marseille, à Lyon, partout en France, à Brest, à Nantes, on avait des repas partout, à Strasbourg, puisque moi je suis de Strasbourg. Bon, ça fait longtemps que je fais plus de repas ufologiques à Strasbourg parce que j'avais plus le temps, et puis maintenant je commence à avoir un petit peu de l'âge, donc j'en fais plus. Mais ils sont tous passés dans nos repas ufologiques. Si je devais montrer toutes les photos qu'on a et tout ça, c'est dingue le nombre de personnes qui sont passées, et ils peuvent pas nier qu'ils sont passés chez nous, quoi.
D'accord. Est-ce qu'on peut. Je vais lancer un appel parce que on le fait quand on parle d'association ici. On le fait. Mais tous ceux qui sont intéressés éventuellement de monter un repas peuvent le faire par le biais du président Stéphane Royer, qui est aujourd'hui le président des repas ufologiques. Tous ceux qui sont intéressés peuvent monter un repas dans une région de France où ils sont habitants. Il suffit de faire des démarches et de les contacter sur le site internet Les Repas Ufologiques, tout simplement, et vous pouvez faire des démarches pour monter un repas. Sachez que c'est très intéressant, c'est à but lucratif, il n'y a pas
Non lucratif,
non
non lucratif,
lucratif, voilà, non
non
lucratif.
lucratif,
Non
oui.
lucratif, il n'y a pas de participation financière, c'est totalement
Si,
gratuit.
alors attends, il faut que je te
Ouais,
reprends, hein. Je te
dis-moi.
reprends. Les seuls membres de l'association des repas ufologiques, ce sont les responsables des repas. Les
Oui.
gens qui viennent au repas voir, écouter les différentes différents conférenciers, etc. On peut éventuellement leur demander une petite participation parce que des fois, ben, on paye quand même le déplacement du conférencier. Mais sinon, c'est gratuit. C'est le seul truc qu'ils ont à faire, c'est il faut consommer dans le restaurant dans lequel on organise notre repas. C'est tout ce qui engage. Mais les seuls membres qui cotisent à l'association des repas ufologiques, c'est le responsable du repas en question. Plus son adjoint s'il décide d'en avoir un.
Oui, d'accord. Donc oui, il y a quand même une petite. Oui, mais enfin, c'est dérisoire. C'est pas. Ouais,
Ah
d'accord.
ben non, c'est pas on demande pas 250 euros. Non, 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 non. Je crois que la cotisation, elle est de 21 ou de 22 euros.
Oui,
C'est
disons.
pour payer les timbres, quoi, c'est
Oui,
tout,
voilà.
hein,
D'accord.
voilà.
D'accord. Donc
Par
voilà.
contre, le concept, et le nom, les repas ufologiques suivis du nom de la ville, est protégé, c'est un nom qui est protégé à l'INPI et il appartient à l'association des repas ufologiques.
D'accord. On sera autour de combien de repas aujourd'hui en France?
Oh ben écoute, aujourd'hui on a Brest, Nantes, Toulouse, j'en oublie quelques-uns et puis ils me pardonneront, mais on doit être 6 ou 7 repas, hein. La grosse claque qu'on a eue, c'est le Covid qui nous l'a donné, hein, et les gens ont abandonné parce que ils sont passés à autre chose, ou la vie a fait que ils peuvent pas continuer toujours. C'est quand même un engagement, hein. C'est faut pas croire que quand on fait des repas écologiques, ça se fait comme ça et c'est juste en claquant du doigt que tout se réalise. Non, non, il y a du boulot derrière. Il y a quand même du boulot derrière. Et puis, avec la récession actuelle, les gens, ben, ils vont remplacer le repas des repas écologiques par la facture d'électricité, quoi.
Ouais. Bon, enfin voilà ce que Christian peut vous dire sur les repas ufologiques, ce que je peux, par expérience, pour en avoir fait partie, et j'en fais toujours partie à Villeneuve-sur-Lot, j'ai un repas à Villeneuve, ce qu'on peut en dire, c'est un une très belle association, on invite des gens, on mange durant un repas au restaurant, c'est aussi gastronomique, on partage
Oui,
des idées, oui.
et on n'a pas de, on touche pas de commission, hein.
Voilà, c'est ça. Et on partage donc ce repas, on parle des thèmes dont on a envie à table, et ensuite on invite un conférencier qui est à caractère, je dirais, tourné vers l'ufologie, ou caractère qui se tourne vers quelque chose se rapproche de l'ufologie, et ensuite on fait cette conférence de l'invité, de l'intervenant qu'on a invité. Voilà comment ça se passe à peu près. Donc maintenant, Christian, on va passer à l'autre page, mais avant de passer à l'autre page, tu vas nous parler de l'ufologie, de ton impression sur le fait ufologique à travers le monde et en France, ce qu'il est, ce qu'il en retourne exactement, et la désinformation qui est faite sur ce thème, et la vraie information qui circule. On va en parler avec toi. Avant, on va faire une brève page de musique, et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, le retour sur l'antenne des portes de la connaissance d'Ode Radio. Après cette musique, vous avez tous reconnu X-Files. En fait, c'est la version longue. Donc, on était en plein dans le sujet. Avec la musique aussi, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Alors, on est de retour avec Christian Comtesse, qui était l'ancien responsable des repas ufologiques de France, qui nous fait aujourd'hui une présentation, qui nous a fait une présentation pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne des repas. Maintenant, on va parler avec lui du fait ufologique à travers le monde, en France, à travers différents pays, ce qu'il en pense et parler de désinformation, d'information. On va en parler avec lui. Alors, d'abord, l'ufologie en France, qu'est-ce qu'on peut en dire actuellement, Christian? Qu'est-ce qu'on pouvait en dire déjà à l'époque des repas UFO? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que les mentalités ont évolué? Est-ce qu'on est toujours ancré dans la désinformation et le déniement, ou est-ce que ça a évolué?
Ah ben là en ce moment on assiste quand même à un hold-up de l'ufologie française par les sceptiques et le GEPAN, hein, puisque quand on parle de GEPAN et qu'on parle de sceptique, il n'y a que ces deux genres de personnes qui ne savent pas que c'est exactement la même chose. Le souci, c'est que quand des témoins vont au GEPAN pour déclarer leur observation, ils sont redirigés systématiquement vers des gens dont le scepticisme est avéré et les enquêtes sont faites à charge. Donc, comme le GEPAN fait partie du CNES et que le CNES est une institution scientifique, quelle est la valeur de la parole d'un ufologue face au grand méchant CNES dont la notoriété ne fait plus aucun doute, puisqu'ils ont envoyé des fusées dans l'espace, hein. Nous, on est que des petits, hein. Voilà à peu près le sentiment général que j'ai, même si c'est un petit peu exagéré de ma part, mais bon, c'est le climat général, voilà.
D'accord. Et à l'époque, il y avait une époque où on était, je dirais, où il y avait le GEPAN et il y avait quelques ufologues, je dirais, dans les années 80. Est-ce que justement, il y a une différence par rapport aux années 80? Est-ce qu'on est plus avec Internet dans l'évolution de l'ufologie positive ou est-ce qu'on est toujours, je dirais, en combat permanent entre l'institution du CNES et les indépendants, en fait. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça?
Ben, au début des années, le GEPAN, il date, enfin le GEPAN, le premier GEPAN, un GEPAN, date des années 70. Ça a été remplacé par le CEPRA ensuite, jusque fin des années 90, même plus, fin des années 2000, où ça s'est redevenu GEPAN, mais GEIPAN, hein, Groupement d'études et d'informations sur le phénomène aérien non identifié. La seule chose que moi je regrette, c'est qu'il faut enlever le E et le I, donc d'études et d'informations, parce qu'il n'y a ni études ni informations. Bon, donc voilà ce qu'il en est. On était pendant une période une centaine d'ufologues répartis dans toute la France qui travaillons bénévolement pour le GEPAN en tant que IPN. Et puis, donc, par une astuce un peu particulière, on nous a fait passer des tests. Bon, moi, j'ai été viré, hein, du GEPAN parce que j'en ai traité certains de fonctionnaires des sciences, mais ça leur a pas vraiment plu. Mais suite à une affaire, suite à l'affaire Golfech, hein, on en reviendra tout à l'heure si tu veux bien. Mais il y avait une centaine d'ufologues qui étaient collaborateurs du CNES et du GEPAN et qui faisaient des enquêtes dans toute la France. Et donc on a éliminé 99% de tous ces ufologues, hein, c'est d'une centaine, ils sont passés à une dizaine ou une quinzaine, dont 90% sont des ultra-sceptiques, des sceptiques et des ultra-sceptiques. Et là, on en revient donc à ce que je disais tout à l'heure, où le GEPAN, il faut leur enlever l'étude et l'information, parce que l'étude, c'est bâclé, et puis l'information, elle est nulle et non avenue. Il n'y a pas d'information. Moi, quand je vois des gens qui essayent de nous faire croire que À 4 heures du matin, une arracheuse de pommes de terre ou une arracheuse de betterave peut être confondue avec des ovnis. Dans les mots, dans les phrases, ça marche, mais dans la réalité, ça marche pas. Hein. On peut raconter ça à un employé de bureau, à un secrétaire, à un ouvrier d'usine, mais on ne raconte pas ça à un agriculteur. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de passer tous les cas d'observation d'objets volants non identifiés qui posaient problème, hein, c'est-à-dire que l'identification n'était pas possible parce que ce que présentait le témoin n'avait pas de référence possible. Ben ils ont essayé par tous les moyens de faire croire que c'était ou la Lune ou le ou ah les biais cognitifs. Ah, ça il faudra que je vous explique les biais cognitifs. Hein, c'est-à-dire que si un pilote a un défaut de vision et vous savez un type qui a un 747 avec 500 personnes derrière lui, vous savez, qui a un biais cognitif, qui sait pas reconnaître une étoile, hein, quand il en voit une. Si un pilote un jour se trompe, ça veut dire que tous les pilotes qui ont fait des observations se trompent. Ça, c'est 100%, c'est indiscutable. Hein. Quand une personne a confondu une lanterne thaïlandaise avec ce qu'il a observé, donc automatiquement, tous les témoins se trompent. Vous voyez? C'est comme ça que c'est pris la chose. Donc, on en est arrivé à un point où on va chercher le moyen de savoir quelle est la tare du témoin pour pouvoir dénigrer son observation. Alors s'il a une moquette dans son salon, et puis qu'il y a une petite partie de la moquette qui manque, c'est qu'il l'a fumée, vous voyez le gars. Bon, donc tout ça, c'est fait de cette façon-là. On ne croit pas le témoin. Et les gens y croient en plus faire des enquêtes de type criminel, hein, alors qu'il ne faut que des enquêtes à charge. Parce qu'une enquête criminelle, elle se fait à charge et à décharge. Mais dans les enquêtes ufologiques, il n'y a que la charge qui compte. Donc c'est comme ça. Le témoin est un bon vivant. Ça veut dire que le témoin, il a fait une blague. Ou alors que le témoin, il a picolé un petit peu. Hein. Donc c'est marqué. C'est un bon vivant. Ils le mettent en caractère gras et ils le soulignent, comme ça au moins on s'aperçoit que le mec il était bourré quoi quand il a fait son observation.
Ouais.
Hein, Trans-en-Provence, le témoin qui n'a jamais changé de toute sa vie, il n'a jamais changé le caractère de sa description de l'engin qu'il a observé, il n'a jamais changé, mais dans tous les rapports des sceptiques, c'était un bon vivant. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on fait. Alors, quand nous, on organise des repas et que, ben, on écoute les gens, et non seulement on les écoute, mais on les entend, ce qui est différent, eh ben, nos repas ufologiques, eh ben, ils commencent à gêner beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Hein? Et je tiens à signaler aussi que tous les responsables du GEPAN, hein, sauf les deux derniers, je crois, si Xavier Passot y est passé, mais je ne sais pas si les deux autres sont passés, je ne sais même plus combien il y en a d'ailleurs, je ne fais plus attention, sont aussi tous passés par les repas ufologiques. Hein. Donc ça veut dire que les repas ufologiques avaient quand même leur mot à dire quand il s'agissait de phénomènes ovnis. Voilà. Donc maintenant, c'est pas les sceptiques qui nous ont fait fermer notre bouche, c'est la pandémie.
Ouais. De toute façon, on a une sorte de fermeture d'esprit dès qu'il s'agit de parler d'ufologie. Ça rentre pas dans les croyances qu'on nous a instaurées quand on était à l'école. Donc tout ce qui sort de l'encadrement, je dirais, social, de l'éducation normale, entre parenthèses, du cadre où on informe les gens avec des choses dont on veut bien leur dire que ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité. On traite souvent les gens plus bas que terre par rapport à des choses qui n'entrent pas dans ce cadre-là, ce qui est bien dommage parce que la vie montre qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas connus, qui sont ignorés largement et qui sont des phénomènes qui devraient au contraire être mis en avant pour essayer de comprendre et pour aller chercher la vérité quelque part par rapport à ces phénomènes, chose qui
Mais
n'est pas, qui est mal faite et qui n'est pas faite du tout dans certains pays. Donc c'est vraiment dommage. Donc qu'est-ce qu'on peut...
je confirme, je confirme ce que tu es en train de dire dans la mesure où actuellement, mais regardez voir un peu ce qui se passe autour de vous. Regardez voir la télévision, même si c'est pas très recommandé, mais regardez voir ce qui se passe autour de vous. Les gens sont en train de tout numériser. Ils veulent numériser l'amour. Ils veulent numériser les sentiments et ils veulent numériser l'humain. Hein? Quand je vois pour le Levothyrox, par exemple, où ceux qui vont fabriquer la lévothyroxine, hein, sous différentes formes, sont en train de se faire condamner actuellement à des peines à des amendes extraordinaires parce que on s'est rendu compte que ils avaient magouillé. Il y a quand même 1 million de personnes au niveau du lévothyrox qui ont été touchées. Ils essayent de faire dire que puisque il y a cette personne-là, hein, ils remettent tout en individuel, c'est-à-dire telle personne, elle a été malade à cause du Levothyrox, c'est pas du tout possible parce que il y a 30 000 personnes qui ont supporté le Levothyrox. Mais cette personne-là, elle ment. Elle n'est pas malade parce que le Levothyrox ne lui convient pas. Elle est malade parce qu'elle ment. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe en ufologie, c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de choses. Regardez voir l'histoire des gilets jaunes, il y avait 80% de la population qui était pour les gilets jaunes. Et Macron est quand même repassé aux élections suivantes. C'est à se demander où est-ce à quoi il faut s'attendre. On sait pas. On sait pas. Tout le monde veut numériser tout. Et comme ils veulent tout numériser, on devient des chiffres, des nombres. On n'est plus des humains, on est un nombre bien particulier et on est dans telle catégorie. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour l'ufologie, ça se passe dans la même chose. Quant au gouvernement, mais comprenez donc voir que les gouvernements, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout contrôler, tout prévoir. Si jamais une chose arrive, un objet volant non identifié arrive, place de la Concorde, en plein jour, devant les caméras des médias, qu'est-ce que le gouvernement a le plus peur? Le gouvernement a le plus peur, pas du phénomène OVNI, parce que après tout, on sait pas de quoi il s'agit. C'est de la réaction de la population, parce qu'ils ne peuvent pas la maîtriser, ça. Ça, c'est pas maîtrisable. Les gens vont, il y a des gens que si une soucoupe volante elle atterrit place de la Concorde, ils vont se suicider. Il y a des gens qui vont quitter Paris. Il y en a d'autres qui vont aller se planquer dans les forêts. Il y en a d'autres qui vont prendre les armes. Parce qu'ils maîtrisent pas ça. Ils peuvent pas maîtriser ça.
Je pense que c'est une méconnaissance du phénomène qui fait ça. C'est-à-dire que comme on ne l'a pas appris tout jeune et qu'on ne s'est pas rentré dans les mœurs, dans la culture, on prend ça, les gens prennent ça pour quelque chose où on leur dit, oh là là, mon Dieu, méfiance, faites attention, c'est dangereux. Et c'est ce qu'on fait dans les films.
Exactement.
Avec beaucoup de films,
Exactement.
on montre le côté dangereux, exogène qui est montré du doigt en disant, ah oui, mais attention, ce sont des êtres qui veulent notre peau, tout simplement. Et ça a
Ouais, qui
l'air
veut nous
que,
manger, ouais.
oui,
Ouais,
c'est
qui
ça.
veut nous
Alors
manger,
que
ouais.
il y a la belle ufologie, il y a aussi le côté ufologique où on a des phénomènes qui ne sont pas compris et où on a des êtres qui sont certainement de bienveillance. Et ça, malheureusement, on ne veut pas l'afficher. Et c'est bien
Bon,
dommage.
moi, je n'irai pas jusque-là, parce que je n'en sais rien. Je tiens quand même à rester un petit peu pragmatique. Il existe, incontestablement, des phénomènes qui sont inexpliqués, des éléments qui ne sont pas, à notre connaissance d'origine, humaine, hein, les vitesses qui sont prises par les engins, les déplacements à angle droit, les virages à angle droit, etc. Le fait qu'ils plongent à des profondeurs extraordinaires, ça c'est des trucs qui sont pas ou alors il faut vraiment que le secret soit vraiment bien gardée. Et vous savez comme moi que tous les secrets les mieux gardés sont ceux qui sont le mieux connus, quoi. Non, il existe des trucs qui sont inexplicables pour de bon, qu'ils soient certainement d'origine extraterrestre, mais on ne va pas dire de quelle origine parce qu'on n'en a pas la preuve. Il faut quand même rester raisonnable. Mais en attendant, ne pas reconnaître, c'est s'enfoncer dans des mensonges permanents. Comment, qu'est-ce que je vais vous dire ça? Le GEPAN, dans mon affaire de Golfech, a tenté dans un premier temps d'expliquer que ce que le témoin avait vu, enfin que les témoins ont vu, c'était des avions à 9 000 ou à 12 000 mètres d'altitude. Non, à 12 000 et à 16 000 mètres d'altitude. Bon, déjà, un avion qui vole à 16 000 mètres d'altitude, j'en connais pas beaucoup, hein. J'en connais pas beaucoup, hein. Et les avions de ligne, ils volent entre 9 et 11 000. Donc, déjà à 12 000 mètres, c'est. On contacte des gens qui vont nous dire non, non, monsieur, je vous affirme, il n'y a pas d'avion qui a survolé la centrale nucléaire de Golfech à telle heure, telle date. C'est clair. Et puis 2 mois après, le GEPAN, il nous sort que le même service que nous avons appelé, qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'avion, leur dit à eux qu'il y avait 2 avions. Voilà où on en est. Alors, ces gens-là, ils ont menti à qui? Ils ont menti à nous ou ils ont menti au GEPAN? Ou c'est le GEPAN qui a menti à leur place? Voilà où on en est.
Ouais. De toute façon, la vérité, je vais dire quelques mots tout à l'heure après la fin de l'émission, quand Christian sera toujours à l'antenne, je dirai quelque chose par rapport à ça. Et je crois que de toute façon, on est dans un mutisme où il faut absolument où se taire. Et puis les gens qui sont importants, qui sont des gens haut placés, qui dans l'armée ou dans des hégémonies, je dirais, hautement placés, disent des choses qui déplaisent parce qu'ils croient aux ovnis, on trouve toujours une façon de les ridiculiser d'une manière différente parce qu'on ne peut pas les ridiculiser, donc on trouve autre chose. Parce qu'on voilà, c'est très triste et c'est très malheureux parce que justement on ne veut pas, on ne veut pas et on n'a pas intérêt à ce que la vérité se sache parce qu'il y a des enjeux qui sont énormes sur Terre. Malheureusement, c'est la stricte vérité et c'est malheureux. Alors, Christian, pour finir l'émission, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que tu crois que les choses, enfin, si. Si, évidemment, je dirais les choses politiquement s'arrangeaient sur Terre et si on allait vers une comment dire ça, une amélioration de la vie sur Terre avec une société un peu plus belle que celle qu'on a actuellement, est-ce que tu crois que on finirait par dire la vérité aux gens sur les ovnis ou est-ce que tu crois que ça va rester dans un mutisme?
Mais tant que les différents pays vont s'opposer, surtout sur le plan militaire, dans des conflits interminables, etc., tant qu'il y aura ça, on n'aura pas de révélation. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Les révélations, elles se feront dans la mesure où tous les pays sont en paix et où tous les gens veulent partager. Or, ce ne sera pas le cas. Pourquoi le phénomène OVNI est dans certains pays considéré comme un secret défense? Eh bien parce que si vous voyez, vous, un objet traverser le ciel avec une traînée assez grande, bleue, comme ça, de couleur bleue ou de couleur jaune, ça, pour vous, c'est juste une traînée de couleur bleue ou de couleur jaune. Mais si vous le racontez au GEPAN qui est quand même la première source de récolte d'informations sur les ovnis, la traînée jaune ou la traînée bleue va à eux leur dire quelque chose. Et les vitesses que vous allez raconter, ça va leur dire quelque chose. Les virages en angle droit, ça va leur dire quelque chose à eux. À vous, ça vous dira rien. Vous êtes ouvrier agricole, vous êtes secrétaire, vous êtes médecin. Vous êtes bon dans votre partie, mais pas dans tout. Et vous ne savez pas à quoi ça correspond tout ça. Alors, la fumée bleue, c'est un système de propulsion qui pourrait être détourné pour mettre dans les avions, par exemple. Un avion qui fait un virage en angle droit, un chasseur qui fait un virage en angle droit, il a quand même un point de supériorité par rapport à un chasseur qui ne fait pas de virage en angle droit. Un chasseur qui passe de 0 à 10 000 km à l'heure quasiment instantanément, il a donc un pouvoir supplémentaire par rapport à un avion qui va mettre qui va même pas atteindre 10 fois la vitesse du son. Donc voilà comment ça se passe. Et tout ça, c'est de l'armement, de l'ingénierie, et tout ça, c'est secret défense, parce que si on tombe dessus sur un vaisseau et qu'on peut récupérer cette technologie, la première chose que ça va faire, cette technologie, ça va aller dans l'armement. Donc il ne faut pas dire qu'on a attrapé un objet volant non identifié, une soucoupe volante ou un triangle ou n'importe quoi, j'en sais rien moi. Il ne faut pas le dire parce que ça peut servir à l'armement, ça peut servir à l'armée. Et donc si un pays à ce pouvoir de récupération de technologies aliens, eh ben, ce pays, il aura donc plus de pouvoir et plus de puissance par rapport aux pays voisins. Et on en est là. On en est là, les gars. C'est là comme ça qu'il faut voir les choses. Écoutez voir simplement une chose. Vous vous rappelez que toutes les centrales nucléaires ont été survolées par des drones pendant une période. Claude Lavat appelait ça des drovnis. Hein, on a fait plusieurs articles à ce sujet, hein, où il y a une centaine de survols de centrales nucléaires qui n'ont même pas été. On a répertorié les quelques dizaines des premières, mais plus. Les médias s'en sont débarrassés très rapidement. Alors que certains directeurs de centrales nucléaires ont déclaré que ce n'étaient pas des drones. Alors c'était quoi? Il n'y a pas eu une seule revendication. Il n'y a pas eu une seule arrestation. Il n'y a pas eu une seule interception de ces ovnis, de ces objets qui ont survolé les centrales nucléaires. Alors qu'est-ce que c'était? Mais rendez-vous compte, qu'est-ce que c'était? C'est grave. Parce que si c'est du terrorisme, nos centrales sont en danger. Et ça, c'est indiscutable. Si c'est des repérages pour les militaires, bon, là, c'est facile. Mais ça pourrait être aussi ce qui se passe actuellement en Ukraine, où les Ukrainiens utilisent des mini-drones, mais même que ceux que vous achetez au supermarché, pour balancer des grenades sur les Russes. Imaginez simplement que dans 5 ou 6 centrales françaises, des drones bousillent les transformateurs. Ils n'ont pas besoin de bousiller les réacteurs, juste les transformateurs. Eh bien, il y a toute l'Europe qui est coupée d'électricité parce que tout est imbriqué là-dedans. Vous voyez le danger? Et pourtant, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, est-ce que c'était des drones qui venaient faire des repérages? Est-ce que c'était des petits malins qui voulaient se faire mousser? Mais si c'était le cas, eh ben, il y aurait eu des revendications, il y aurait eu des vidéos, il y aurait eu des podcasts, il y aurait eu un tas de choses comme ça. Si c'est des repérages, c'est pour du terrorisme. Et si c'est et si c'est pas du terrorisme, c'est quoi? C'est quoi? Voilà la question qu'il faut poser. Et là, ça a démarré en 2010 avec l'affaire Golfech, déjà pour commencer. Et puis d'autres centrales nucléaires qui ont aussi été survolées par des triangles ou d'autres objets volants non identifiés. Alors qu'ils viennent de notre planète ou qu'ils viennent de quelque part ailleurs, c'est pas le problème. Nous, on n'a jamais prononcé le mot extraterrestre quand on a fait nos enquêtes sur Golfech. C'est les sceptiques qui nous ont dit que nous, on voulait que ce soit extraterrestre. Mais eux, c'est eux qui ont prononcé le premier le mot extraterrestre. Nous, on n'a jamais prononcé le mot extraterrestre. La seule chose qu'on voulait vraiment faire valoir, c'était que le GEPAN nous racontait des salades. Et on a réussi. Et on est réussi dans cette histoire-là. Et ensuite, il y a eu les fameux survols de drones au-dessus des centrales nucléaires. Et il n'y a pas une seule revendication, rien, un média, pas un seul média n'a pu interroger un de ces gars qui a fait survoler les drones. À un moment, il y a eu 5 ou 6 centrales nucléaires qui ont été survolées à la même heure, le même jour, à la même heure, le même soir, à la même heure. Mais vous vous rendez compte, si c'était organisé par quelqu'un, vous vous rendez compte le déploiement d'énergie qu'il faut mettre pour faire ça la même heure avec des équipes coordonnées, avec. Vous savez, moi j'ai des amis qui sont gendarmes et qui mon fils il était gendarme dans une centrale nucléaire proche de chez moi là. Il m'a dit, papa, on se serait fait prendre la première fois par un drone, on se serait fait surprendre. On se serait fait surprendre une deuxième fois, mais la troisième fois, on le descend. Et c'est facile de descendre un drone, hein. Moi je fais du bike rap, on prend un fusil à bike rap, on met peut-être des plombs un tout petit peu plus gros. On tire au fusil de chasse, on risque pas de casser quoi que ce soit, hein. On tire en l'air. Et ensuite, les plombs, quand ils retombent par leur propre poids, ils font 1,5 g, 2 g. Ça peut tuer personne. Mais par contre, on peut descendre le drone. Or, ils l'ont jamais fait. Et il y a eu une centaine de survols sur nos 58, sur une trentaine, non, une vingtaine de centrales nucléaires, et toujours les mêmes. Golfech, Cattenom, toutes des centrales bien connues. Et c'est quand même, bon, et là j'ai arrêté le décompte parce que ça fait maintenant plus de 2 ans ou 3 ans qu'on ne compte plus, mais il a dû y en avoir encore d'autres depuis. Et on en est là. On en est là dans tout ce qui est ufologique, c'est toujours pareil, c'est comme ça, c'est des non-dits, des fausses informations, des dénigrements, mais non, vous racontez des choses, et puis vous avez le biais cognitif, oui, le pouvoir de distance et tout ça. Il nous raconte un tas de choses, mais avec une suffisance. Si dans beaucoup de cas, ils ont raison, hein, les gens qui racontent ça, dans beaucoup de cas, ils ont raison, hein, que les gens ont pu confondre avec la Lune, ils ont pu confondre. Même moi, je me suis même fait avoir, hein, une fois, j'ai vu une lumière au-dessus de ma voiture parce que j'avais le toit ouvert. J'ai vu la lueur, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais sauf que moi, je me suis arrêté pour regarder. J'ai dit, oh, le con, c'était la Lune. J'ai un ami qui était ufologue de longue date, qui me téléphone en volant de sa voiture, il roulait à 110 à l'heure sur une route de campagne, il me dit, je suis en train de fuir, il y a un truc qui me suit là. J'ai dit, t'es où? Alors, depuis mon ordinateur, j'ai essayé de voir où il était. J'ai dit, arrête-toi tout de suite, t'es en train de faire le con, c'est Saturne que t'as derrière toi. Et il s'est arrêté, il a regardé, il dit, purée, comment je puis me faire avoir? Et il y a beaucoup de gens qui se font avoir comme ça.
Bon.
Mais est-ce que tous les gens, est-ce que tous les témoins se font avoir de la même façon? Non. Non.
Christian, on pourrait continuer cette conversation très longtemps.
Ah ben on en a pour 2 jours là,
Oui,
si tu me laisses le.
mais on va être obligé de rendre l'antenne parce qu'on a bientôt les infos qui vont passer. Écoute, merci infiniment de ton beau témoignage sur le phénomène OVNI et sur les repas ufologiques. Voilà, le mot de la fin, c'est tout simplement, vous savez très bien, chers auditeurs, que c'est une émission qui montre et qui essaye de montrer des vérités qui ne sont pas forcément mis en avant. Et vous savez très bien que le phénomène ufologique est un phénomène qui n'est pas répandu entièrement à travers le monde comme étant quelque chose de normal, mais qu'on essaye au contraire de dénigrer et qu'on essaye de montrer malheureusement que c'est un phénomène qui sort des gonds de ce qui est, je dirais, dans le cadre normal des choses. Et quand vous voyez un objet, comme disait Christian, qui fait des virages à angle droit, il faut savoir que l'inertie ne rend impossible cette manœuvre parce que vous êtes littéralement écrasé à l'intérieur de l'objet. Un objet qui passe de 0 à 10 000 km à l'heure, c'est pareil. Les forces de l'inertie, les forces d'accélération ne peuvent pas faire supporter au corps cette accélération. Il faut se dire qu'il y a beaucoup d'objets qui dégagent des champs électromagnétiques lumineux. Tous ces phénomènes montrent qu'on a affaire à des objets qui dépassent le cadre de ce que nous connaissons, ce qui ça peut être des objets militaires secrets, mais ça peut être aussi des objets qui viennent d'ailleurs, dont on ne sait pas leur provenance. Mais il y a un phénomène, effectivement, qui est bien reconnaissable comme étant quelque chose que nous ne connaissons pas et qu'il faut analyser et qu'il faut arrêter de dire que ce n'est qu'une étoile ou un avion qui se pose ou autre chose. Quand on voit des phénomènes qui dépassent l'entendement avec des témoins qui sont des témoins valables, parce que ce sont des militaires, des pilotes de ligne, des pilotes de chasse, des gendarmes ou autre chose qui témoignent, il faut arrêter de dire que ces gens sont des farfelus, mais que ce sont au contraire des gens qui sont capables d'apporter des preuves que ce phénomène existe bien. Merci infiniment, Christian. Merci pour ton grand témoignage. Merci infiniment. Bonne continuité dans tes activités. Et pour une prochaine émission, on accueillera Jean-Pierre Luminé, que vous connaissez tous, qui nous a fait une très belle émission sur les trous noirs, la prochaine fois. Et nous ferons d'autres émissions jusqu'au mois de juin. Merci à tous. Merci beaucoup.
Au revoir.
Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.